Cyril Collet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion action chez CPR Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Or, en ce début d'année, on a beaucoup parlé des pays émergents qui ont fait peur à un moment donné. On voit à nouveau peut-être un certain nombre d'inquiétudes ressurgir. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces marchés? Ils avaient besoin un petit peu de respirer, mais parfois on a vu de la volatilité quand même revenir.
Oui, les sorties des banques centrales, ça va amener de la volatilité, ça c'est obligatoire. Après, ce qui s'est passé en début d'année, c'était un petit peu atypique dans le sens où beaucoup de hedge funds, notamment, ont pris des positions très positives sur le marché, avec un bêta assez important. On nous a répété entre Noël et Nouvel An, je ne sais pas combien de fois, que 2014 serait l'année des actions partout, que ça allait être formidable. Et je pense que les gens sont partis un peu trop optimistes. Et du coup, la réallocation des flux à mi-janvier, quelques mauvaises nouvelles sur les émergents, effectivement, sachant que les sorties de flux sur les émergents, ça appuie juste là où ça fait mal. En Turquie, c'est un peu compliqué. En Argentine également. On voit que, par exemple, l'Indonésie, qui avait été attaquée en fin d'année dernière, s'en sort très bien. On n'en entend plus parler aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des endroits où, structurellement, il y a un problème de déficit de balance courante. On parle de solde primaire chez nous, plutôt de balance courante chez eux. Et oui, il y a des sorties de flux, donc ça les fragilise. Donc, au global, une année 2014 qui devrait être plutôt de bonne facture. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec plus de volatilité. Et encore une fois, c'est normal, ça sera le cas pendant tout au long de l'année. Le tapering a commencé, c'est-à-dire que la Fed rachète moins d'obligations américaines. Mais ça n'empêche pas les marchés développés d'être plutôt bien orientés. Donc de la vol, mais finalement, une macroéconomie qui s'améliore et des flux qui bougent. Donc j'oserais dire business as usual.
Oui, alors on a vu tout de même aux États-Unis, puisque c'est un des grands paris de cette année, qui est enfin une reprise américaine, mais on voit un débat au sein même de la Réserve fédérale américaine, effectivement, sur nécessité de changer quelque part cette politique, peut-être plus rapidement que ce qui est aujourd'hui prévu et communiqué.
Ça, c'est assez étonnant parce que les derniers chiffres macro ne sont pas très bons. Et la grande question des 15 derniers jours, c'est est-ce que c'est dû au froid ou pas? Alors, dans un premier temps, tout le monde a dit bon, c'est le froid, ok. Mais un deuxième, un troisième, pas bon. Et là, on se dit, est-ce que c'est vraiment dû au froid? Et dans les minutes de la Fed qui ont été publiées hier soir, on était censé trouver cette information parce qu'il paraît que la Fed a bien entendu un thermomètre un peu plus précis que les communs des mortels. Et c'est pas aussi clair que ça. Donc je pense qu'il faut attendre un tout petit peu, savoir s'il y a eu effectivement une petite rechute en début d'année ou savoir si c'est uniquement le froid qui a paralysé pas mal de choses pour se dire que oui, il y a une vraie reprise. Maintenant, par rapport aux États-Unis, il faut quand même être conscient que c'est le seul endroit où l'économie a continué de progresser au cours des 4-5 dernières années, où les bénéfices des entreprises ont été au rendez-vous, pardon. Donc plutôt, je pense que le risque des États-Unis, c'est plus un risque de valorisation qu'un risque de mauvaises nouvelles macro. Les bonnes nouvelles macro arrivent chez nous. Chez eux, j'oserais dire, elles sont un petit peu en bout de course, même si on attend une belle année avec réinvestissement des entreprises, croissance forte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est plus une bout de course chez eux, et je dirais un départ de course, même si les marchés sont partis un peu plus tôt, comme d'habitude, puisqu'ils sont rebondis depuis fin 2011 chez nous, sur une situation économique qui surprend tout doucement en Europe.
Alors, en Europe, justement, on peut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui. Alors, on a eu ces éléments de flux que vous avez rappelés entre les marchés émergents et ces marchés-là, et notamment le marché européen, favorable au marché européen. Et puis, en même temps, certains disent finalement, on est arrivé à un point bas en Europe, ça peut qu'aller mieux. Il y a un gros pari sur l'Europe, quand même, qui semble, en tout cas, se jouer.
Macroéconomiquement, oui, c'est vrai. L'an dernier, on était à moins 0,50 en croissance de PIB pour la zone euro. On attend 1% cette année. Donc, on ne sait pas si ce 1% va se transformer en 2 après, ce qui n'est a priori pas le cas. L'idée, c'est plus le changement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir énormément de croissance dans la zone euro-Europe, mais on va vers un vrai changement. Et si on peut je dirais, le symboliser au niveau des entreprises, j'ai bien regardé ce qu'a dit Arcelor et ce qu'a dit récemment ThyssenKrupp. C'est de l'alu, enfin, c'est des minières. Enfin, ça utilise l'extraction des minières, c'est ce qu'on appelle des produits de base, donc c'est vraiment en début de cycle. Et elles ont dit, bon, notamment ThyssenKrupp, j'ai fait une augmentation de capital en décembre dernier, bon an, mal an, je devrais arriver à m'en sortir. Et la semaine dernière, elles ont dit, ok, la deuxième augmentation de capital, on oublie, c'est en train de repartir tout doucement. Donc, quelque part, je pense que ces deux entreprises, Arcelor et ThyssenKrupp, symbolisent un peu la fin de cycle, qui était peut-être, enfin la fin de la mauvaise partie du cycle, si l'on peut dire, qui était peut-être fin 2013, et on va vers quelque chose de meilleur. Mais c'est vrai que le grand enjeu, on a dit aux États-Unis, ce n'est pas les entreprises, c'est l'aspect flux et l'aspect macro qui est en train de se ternir peut-être un tout petit peu. Chez nous, le vrai problème, c'est les entreprises qui n'ont pas délivré au cours des 3 dernières années. Donc on attend en général 10% de croissance des bénéfices en début d'année. Et en fin d'année, l'an dernier, on a trouvé 1 ou 2%. Les années d'avant, c'était plutôt négatif. Donc si on veut que les marchés européens se comportent bien en 2014, il faut que les entreprises délivrent. Donc c'est la grande attente du moment.
Alors, on a vu effectivement certains groupes plus ou moins affectés par ce qui s'est passé justement sur les pays émergents avec les effets devises, et certains ont un peu de mal à donner de la visibilité sur les prochains mois.
Depuis juillet dernier, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant 10 ans, une entreprise, si elle voulait être crédible, si elle voulait avoir une certaine aura auprès des investisseurs, elle devait justifier de croissance en dehors de la zone européenne, une exposition sur les États-Unis ou une exposition sur les pays émergents. Depuis juillet dernier, justement, et les premières sorties des émergents et le début, entre guillemets, de la crise qu'ils ont traversée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises qui disent on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires en Europe, sont privilégiés en bourse. Pourquoi? Parce que c'est là où on attend la reprise, alors que ça continue à se dégrader dans les pays émergents. Donc je pense qu'effectivement, quand un Pernod Ricard, un Unilever, enfin tous ces gens qui sont très exposés dans les émergents disent peu de visibilité sur le chiffre d'affaires, peu de visibilité sur les commandes, c'est très compréhensible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retourne plutôt vers des entreprises qui font une grosse partie du chiffre d'affaires en Europe, là où on attend une reprise de la consommation. On a vu que les PIB, quatrième trimestre, dans les différents pays et zones euro étaient très positifs, enfin étaient positifs, pardon, fin 2013. Donc ça frémit, ça vient, mais il manque plus que, je dirais, la transformation de l'essai, c'est-à-dire une croissance de bénéfices vraiment significative. On attend 17% dans la zone euro en 2014, ça fait un peu beaucoup. Je pense que si on a 10%, on sera très très content et on se dira que, enfin, c'est bon pour les entreprises. C'est pas uniquement de la réduction de coûts, il y a vraiment une hausse des commandes, parce que ça vient de la hausse de la consommation et ça repart, entre guillemets.
Un mot peut-être du Japon. Là aussi, on voit l'importance, le rôle joué par la Banque centrale du Japon, hein, sur cette économie
japonaise.
Qui n'hésite
pas à être très très rapide. Un mardi matin, petit problème, toi qui sont intervenus. Oui, clairement.
Ce marché-là, c'est vrai qu'il a eu, bon, il a pas mal performé pour les actions, mais il y a aussi des interrogations sur la suite. Comment vous l'analysez, ce marché?
C'est plus difficile, même si on est positif sur ce marché, mais c'est vrai que c'est plus difficile de l'appréhender aujourd'hui. Ce qu'il faut reconnaître à la Banque du Japon, c'est qu'elle met les moyens, elle est très très dynamique, et les événements début d'année les ont un peu fragilisés. En fait, si on simplifie un peu, on fait baisser l'yen, ça donne du souffle à tout le monde, à l'État comme aux entreprises. Le problème, c'est qu'il y a 30% de la note de l'État qui vient de la facture énergétique, parce qu'ils ont arrêté les centrales nucléaires. Donc il y a un premier sujet là. D'ailleurs, le nouveau gouverneur de Tokyo, qui est assez proche de Abe, lui est plutôt pro-nucléaire. Donc il y a un vrai sujet sur est-ce qu'on relance les centrales nucléaires ou pas, pour diminuer un peu la facture de matières premières et donner un peu d'oxygène au pays. La deuxième chose sur le yen, la crise, entre guillemets, des 3 premières semaines de janvier a fait monter l'yen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sorties des émergents tout autour en Asie, que ces pays-là sont très connectés et que dans le doute, ils ont préféré acheter du yen et vendre la devise locale. Donc c'est exactement l'inverse qu'attendait bien entendu le gouvernement japonais, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire monter l'yen, c'est de faire baisser un peu plus loin. Donc ça a fragilisé un peu les statistiques de janvier. Quatrième trimestre, on a vu que sur les commandes durables ou les commandes non durable, c'était pas aussi fort qu'attendu. Donc, ils sont très présents. La TVA monte le 1er avril. Le signe vraiment significatif qu'on attend au niveau des entreprises japonaises, c'est une hausse des salaires. Parce que le vrai problème, c'est la consommation. Et tant que ça ne repart pas, on ne pourra pas dire qu'il y a un effet économie réel. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la Banque centrale est très présente, que les aides commencent à être efficaces. Bon, on peut prendre différents thermomètres, mais globalement, ça commence à être efficace. Mais il faut qu'il y ait une reprise de la consommation, il faut qu'il y ait un retour de la croissance durable, et ça passera simplement par une hausse des salaires. Alors Toyota et Honda ont déjà annoncé des choses. Il paraît qu'il y a tout un tas de grandes entreprises japonaises qui vont le faire lors des publications, puisqu'eux finissent leur exercice fiscal à fin mars, en avril. Mais c'est vraiment ça qui va déclencher la bascule, je dirais, vers le bon côté des choses, c'est-à-dire pas simplement un pays sous perfusion, mais un pays qui redémarre tout doucement.
Le mot de la fin, malgré cette volatilité, favorable aux actions, encore?
Oui, 2014 doit être une bonne année pour les marchés actions. 2012, c'était une bonne année surprise. 2013, c'était une bonne année un petit peu attendue. Principalement en Europe, ça restait du vœu pieux, puisque ça s'est fait sur de l'extension de multiples. Hein. En septembre 2011, on est à 8,5 de PER dans la zone euro. 2012, on est passé autour de 10-11. 2013, on a fini à 15. On n'ira pas plus haut. Donc soit il y a de la vraie croissance de bénéfices, et auquel cas on aura une performance positive des marchés actions en 2014 dans la zone européenne, soit si les entreprises n'arrivent pas à délivrer, le marché va retomber, puisque encore une fois, il faut du concret. Et au Japon, on va se retrouver dans la même situation. Magnifique performance l'an dernier. Il faut que les entreprises délivrent cette année.
Ça sera à suivre. Merci Cyril Collet d'avoir fait le point avec nous, donc directeur de gestion actions, CPR Asset Management.